Le pays où le ciel est toujours bleu. Sébastien Ponce.
Laurent Mazuy.
Suite à une invitation de la Trappe Couleur qui voulait en fait que je développe à la fois une proposition qui montre les différentes casquettes que je peux exercer. La première étant celle d'artiste, la deuxième de directeur artistique d'une association donc du pays où le ciel est toujours bleu. J'ai un peu réfléchi à comment faire cohabiter tout ça dans un espace d'expo et j'ai un petit peu défaussé ces questions-là sur mon petit camarade de jeu pour le pays où le ciel est toujours bleu, donc Laurent Mazuy, en lui demandant d'être commissaire de la partie qui présente mon travail. Donc pour montrer cette idée de l'artiste qui va faire l'accrochage d'une exposition, les choix des pièces, etc. Et dans la deuxième salle de la Trappe Couleur, en fait, il n'y a que les œuvres de la collection de Laurent, qui est principalement constituée l'accrochage de pièces d'artistes qui sont passées par chez nous, qui ont été exposées chez nous. Et du coup, voilà, c'était intéressant. Ça pouvait montrer aussi la partie de l'association et de ce qu'on fait. Donc, en fait, il y a deux curateurs invités et deux partis pris différents, à la fois celui d'une expo monographique et celui d'une expo collective. Et tout ça rend un peu compte de toutes les postures qu'on peut avoir, jusqu'à la partie collection, mais dans le sens aussi amateur, en fait, celui qui aime et qui se constitue un cabinet d'images et d'œuvres qui vont lui apporter quelque chose. Donc là, en fait, on est face à deux cabinets. Le premier qui est un peu un cabinet de curiosité qui est lié à mon travail et à sa thématique, et le deuxième qui est vraiment un cabinet d'amateur, pour le coup.
Je connais Sébastien depuis longtemps, puisque ensemble nous avons fondé le pays où le ciel est toujours bleu il y a maintenant un peu plus de 12 ans, et donc nous avons suivi mutuellement nos parcours, tant d'un point de vue d'exposition que de création. Et il m'a semblé judicieux de montrer à la fois des œuvres récentes, j'entends la série Casque, et également des œuvres un peu plus anciennes, notamment lorsque Sébastien travaillait en relation avec les imageries muséales, notamment tout le travail autour des animaux qu'il a pu faire à Berlin ou au Muséum d'Orléans, animaux naturellement taxidermie, j'en sais rien, enfin peu importe. Voilà, naturalisé en un mot, oui, parce qu'il paraît qu'on ne dit plus ça. Voilà, donc la sélection est une sélection en quelque sorte en diptyque, entre d'une part l'image de... Du visage, du crâne, et d'autre part celui de l'animal, mais ramené à son état de peau et de peau figée par l'attitude muséale. Oui, tout à fait. Il y a d'abord un espace bureau, il y a l'espace cheminée où sont installés l'ensemble de notre documentation qui permet de mettre en abîme, de prolonger d'une manière livresque le propos qui est tenu dans cette salle 1. Et il y a en effet, on peut considérer qu'il y a deux expositions. Au sens où, comme je le disais, il y avait un propos en diptyque, et ce propos à la fois se répond sans se répondre, avec la notion, l'arrivée de l'intrus, c'est-à-dire voilà. Une très belle œuvre de Christian Bonnefoy, un simple papier de soie piqué à même le mur, une grande sphère de 1,70 m de diamètre, qui est placée là, sur un mur volontairement repeint, à la teinte de mon salon qui a le plaisir d'accueillir de la plinthe jusqu'au plafond une partie de ma collection de peintures. Donc en quelque sorte mis en scène comme chez moi, ou mon chez moi décalé, cette œuvre qui vient donc introduire la salle 2, la salle où il y a principalement les autres peintures, la collection, et donc qui vient en quelque sorte titiller, voilà, un peu comme dit Sébastien, mais ça n'est pas mon idée, mais Sébastien a toujours de meilleures idées que moi, ces intrusions d'œuvres contemporaines dans les musées, au sens non pas où ces œuvres sont des œuvres de musée, mais comme je l'ai dit, il s'inspire beaucoup de la muséographie et du travail de présentation que l'on retrouve au travers de l'imagerie et de la muséographie. Donc on a une quelque sorte un effet miroir, un effet inversé. Effectivement, le lieu a conditionné un peu la présentation, au sens que quand on rentre, on est surpris du caractère, si j'ose dire, bourgeois, au sens de maison, de demeure traditionnelle des salles d'expo de la Trappe Couleur, parquet avec motif d'étoile, cheminée 19e, avec amortissement en console, grand miroir, qui d'ailleurs lui-même commence à fatiguer et à un peu pâlir, boiseries qui font le pourtour de la pièce. Bref, quand on entre, on est dans un salon de réception, dans le salon de piano de la demeure bourgeoise classique et universelle, au sens commun à la culture européenne de la montée de l'industrialisation et du capitalisme. Et donc, de ce fait, emmener en quelque sorte l'effet de mémoire qu'est le musée de cette période, mis en scène par l'artefact de la pièce, était en effet une des lignes directrices principales. La collection, l'accrochage en tapisserie de la collection de peinture à la manière du 19e, du 18e siècle, les boiseries qui viennent en écho aux œuvres, aux pièces, à l'effort toujours répété de Sébastien Ponce de mettre en scène ses œuvres au travers ses œuvres d'une façon finie, au travers d'un choix de cadre qui n'est jamais neutre, à la manière un peu de Brancusi, où vraiment l'œuvre est complète et totale. Tout ça, naturellement, participait un peu, était dicté en quelque sorte par l'apport et les éléments graphiques mobilières, voilà, je cherchais le terme, mobilière du lieu.
Et puis, ce qui était intéressant aussi, même par la disposition des salles en enfilade, c'est qu'on arrive dans un premier espace qui a tous ces attributs un peu de musée, avec une idée de collection et de choses de l'ordre de l'étrangeté, cette intrusion de la pièce de Christian, et puis en perspective, on revoit une demi-pièce. Donc on peut penser que dans la deuxième salle, on va retrouver le même type de boulot que dans la première, et en fait, c'est l'intrus de la première qui prend le dessus dans la deuxième salle. C'est-à-dire que c'est la collection de peinture abstraite qui est là, qui est présente, et qui est vraiment le spectacle de la deuxième salle, avec y compris deux pièces de Laurent Mazuy, qui sont travaillées, elles, sur miroir, et où en fait... son travail de peinture est vraiment pris en suspension entre le réel de la collection qu'on voit et son reflet. Donc du coup, voilà, ça permettait aussi de mettre en suspension le travail de Laurent, avec cette notion de ce qu'il aime qui se reflète dedans aussi, de ce qu'il a collectionné et de comment peut-être les choses s'influencent. Pour moi, l'expo, elle est vraiment globale. Enfin, je dirais que ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a cet accrochage en tapisserie. Il a une densité, une prégnance qui en fait un objet. En fait, il y a à la fois la lecture des œuvres indépendantes et puis à la fois tout ce que ça représente qui est contenu et qu'on retrouve comme un fil directeur aussi dans l'exposition. Vu que moi, effectivement, mon travail, même s'il est très éloigné de ce qui se passe dans la deuxième salle, il est aussi nourri par ces images et ces références. On a une série de cinq dessins numériques, en fait, qui sont des portraits en médaille. Alors, ces portraits en médaille, à l'époque, je les avais projetés parce que, justement, au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, on a une très belle collection de pastels secs et je devais exposer dans le cabinet de dessin du musée. Ça m'intéressait donc je travaillais déjà sur ces séries de dessins numériques, mais ça m'intéressait de partir de cette collection de pastels et puisque ce que j'aimais bien, c'est l'impression, les couleurs qu'ils avaient. Ils ont tous un peu une personnalité chromatique propre. Et moi, j'ai essayé de travailler comme ça quand j'ai fait ces portraits. Donc, on est loin des couleurs pastel, hein, vu qu'on a des couleurs même parfois plus intenses et plus sombres, d'autres couleurs très lumineuses. Et donc, c'est des dessins qui représentent des crânes. Qui pour moi, sont des portraits. Et qui sont soit de profil, soit de trois quarts. Et après, il y a tout un jeu, comme c'est des crânes qui ne sont pas dessinés pour leur volume, mais qui sont dessinés comme des strates. En fait, ils sont des stratifications de couches dans l'espace qui forment un crâne, avec un jeu de transparence sur une couleur de fond, quelque chose qui est rapporté comme un filtre et qui, du coup, va devenir un volume. C'est un peu entre une image en 3D et un dessin. Essayer de leur donner à tous une personnalité. Je les ai vraiment conçus comme des personnages, un petit peu comme on ferait une galerie de portraits. La spécificité du travail, c'est ce qui me nourrit en photographie va des fois se déporter dans la sculpture, ou ce qui me nourrit dans le dessin va se déporter dans la photo. Enfin, il y a toujours une espèce d'aller-retour. C'est vrai que mon travaille, s'enferme pas dans une technique, et j'aime bien me servir de tout ce que je sais faire et même me former à faire d'autres choses. Et du coup, là, il y a un objet qui est très simple, qui est en carton et qui a exactement le même relevé un petit peu topographique qu'il y a dans les dessins qui forment les crânes. Et là, en fait, c'est des strates de carton qui sont découpées, qui forment le volume entier de ce crâne. Alors, c'est un crâne qui sert à beaucoup de choses, en fait. Mais tout est basé sur ce même relevé, ce même dessin. Et à chaque fois, il vit autrement dans les diverses pièces avec lesquelles j'ai pu l'utiliser. Par exemple, quand on parle de topographie, on peut aussi lier ça à l'anatomie, parce que, en fait, l'anatomie, c'est l'étude des organes un par un, et la science ultime de l'anatomie, c'est l'anatomie topographique qui va étudier les organes les uns par rapport aux autres. Et j'aime bien cette idée aussi de travailler les choses les unes par rapport aux autres. Je crois que c'est ça qui est aussi un peu constitutif de mon travail, et c'est pour ça qu'il s'étend et qu'il dérive dans plusieurs techniques avec des points de vue différents. Mais du coup, tout ça construit un objet qui est ma démarche. En fait, je dirais que les objets que je fais se construisent avec la démarche, sans jamais pour définir des contours, sans forcément vouloir atteindre un objectif.
Est compliqué. Pourquoi j'aime les pièces, pourquoi j'ai sélectionné cela et pas d'autres. Bon, je sais que j'ai sélectionné cela d'abord sur un critère simple, c'est que je voulais présenter ici de la peinture, parce qu'il y a quand même une relation forte, enfin Sébastien entretient une relation forte avec la peinture, même si son travail est principalement du dessin numérique, de la photographie ou du volume. Et donc ça, je pense qu'on a bien cette relation qui se crée, mais qu'il est difficile de décrire au travers de mots et à partir d'un micro. La deuxième chose, donc, je voulais que ce soit de la peinture. Je voulais que ce soit de la peinture abstraite principalement, mais pas exclusivement. Mais bon, on voit bien au premier coup d'œil que quand même l'abstraction domine, et ça, naturellement, c'est un rapport avec mon propre travail de peinture, puisque je fais de la peinture abstraite, hein, volontairement et ornementale, enfin, bon, on pourrait dire presque avec une dimension baroque ou avec un tissement, une recherche baroque. Il m'intéressait aussi d'avoir un panorama qui présente une peinture, mais une peinture, si j'ose dire, dans tous ses états, mais une peinture dans tous ses états, sans pour autant que celle-ci ou que cette peinture, cette unité de temps, quitte ce qui est sa tradition, c'est-à-dire une surface plane que l'on vient mettre sur un mur, fenêtre ou surface à transcender, peu importe. Donc quand on regarde les tableaux, en effet, on voit de la peinture à l'acrylique avec du lavis, de la peinture abstraite très en pâte, on voit des ficelles introduites dans des supports alvéolaires en plexiglas, donc là on n'est pas dans la tradition, on voit des broderies sur calque avec des bouts de dessin, puisque la broderie vient en quelque sorte par le sens de la laine donner la musculature d'un animal, et puis après le dessin prolonge le reste de l'ossature de cet animal. On a de la peinture, mais plus proche du travail de Staffer avec Sylvie Turpin, puisque la couleur est directement associée au plâtre et l'ensemble est coulé. On a de la peinture, mais avec de l'aéro, simplement. Bref, on a une peinture qui ne se limite pas simplement à, si j'ose dire, une croûte sur une toile. Il y a une épaisseur, il y a des manières, des modes opératoires, variés et qui font tout le caractère stimulant et encore novateur de ce médium qui remplit de joie nos esprits depuis la montée de l'individualité à partir de l'enluminure autour du XVe siècle. La peinture n'est absolument pas un art ancien ou dépassé ou ni rien. Comme je le disais tout à l'heure, elle se crée en tant qu'élément, c'est-à-dire en tant que peinture de chevalet dans la montée de l'individualisme au même titre que l'opéra, ils ont passé des meilleurs. L'opéra étant évidemment un art totalement passé, comme la comédie musicale et comme tout ce qu'on essaye de bien vouloir mettre de côté, de façon à redistribuer un ensemble de pouvoirs et un ensemble de classifications qui permettent, disons, la montée de nouveaux regards et autres. Tout cela fait partie du jeu, quand on se promène en Europe, la peinture est absolument pas minoritaire. Elle ne l'est pas en France d'ailleurs. Alors qu'on nous dit qu'elle est le domaine du passé, qu'elle est dépassée, etc. Je veux dire, quand on fait ce jeu de l'inventaire, ce jeu du numéraire, et qu'on s'amuse à compter sur l'ensemble des galeries parisiennes le nombre de peintres en écurie, on en est à plus de 50%. Donc pour un art décadent ou passé, je trouve que quand même il tient bien encore la route. Non, je pense qu'on est en effet face à une lecture tout à fait française, liée à une organisation du territoire jacobine, liée à une présence ou à une surprésence de l'université et du critique en tant qu'élément moteur et en tant qu'élément curateur. Et c'est justement en ce quoi la démarche ici est intéressante, d'être artiste curateur, d'être artiste collectionneur ou d'être artiste tout court, dans la peinture ou à partir de la peinture, pour la photo ou le volume, tout ça étant rien d'autre qu'une seule et unique question qui est posée, comment à un moment donné, une personne, au travers d'un artefact, d'une volonté d'être dans le désir de l'autre, dans le désir du regard donc du spectateur, peut à la fois trouver ou apporter à la fois éléments de réponse et à la fois une zone ou un territoire d'émancipation pour lui-même et pour ses différentes névroses. Ça, c'est toujours compliqué à un moment donné de venir statuer ou planter le décor de son propre travail lorsqu'il est associé et lorsqu'il est entre guillemets le point final ou l'épilogue de toute une scénographie dont je rappelle, je ne suis pas ni le centre ni l'objet, mais n'ai rien d'autre que, si j'ose dire, le suppléant, comme disait Sébastien, ou tout au moins l'intermédiaire. Donc il était intéressant de terminer, si j'ose dire, la dernière œuvre qu'emmène la scénographie, hein, l'œuvre ultime, par une ou deux de mes pièces. Il s'est trouvé qu'on a préféré mettre deux pièces, il s'agit en fait de miroirs, hein, de dimensions modestes, hein, 55 cm par 45, en format à l'italienne. Et ces miroirs servent de support au dépôt, il n'y a pas d'autre mot, au dépôt de peinture en pleine pâte, qui servent en fait de colle à d'autres couleurs, mais des couleurs cette fois découpées, de papier découpé. Le tout, naturellement, se tient par la notion d'articulation à la manière un peu d'une guirlande ou d'un élément d'ornement. On peut penser aux feuilles d'acanthe du XVIIIe dans l'art de la vaisselle ou de l'ornement ou même de la marqueterie, etc. Donc, on a ce rapport volontairement ornemental, volontairement qui statue et qui entend placer au cœur cette notion de la collection et de l'individu. Et naturellement, comme la surface n'est pas entièrement couverte, le miroir a toujours sa fonction de miroir, de faire miroir, en l'occurrence, de projeter le visage du regardant. Là, je me vois, évidemment, moi, mais une autre personne, un spectateur, va se retrouver donc derrière l'ornement, derrière la peinture ou dans la peinture, au même titre que là où je suis et là où je me regarde. Je suis pris dans le reflet de la collection qui est derrière, dans la simèse au-devant de la peinture, et tout ça en fait crée un ensemble fusionnel où à la fois le peintre présente un boulot dans lequel se reflète sa collection, au milieu duquel se retrouve le regardant, je le répète, là c'est moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et voilà, on a là ce qui nous semblait intéressant à Serbe et à moi, quand on a naturellement réfléchi en commun cet épilogue, de mettre en scène. Maintenant, en effet, la peinture, si on veut en parler un peu plus précisément, elle est, comme je le disais, avant tout une peinture qui aime la gourmandise, qui aime cette dimension baroque, qui est fondamentalement en filiation avec Matisse, au sens où ce dernier nous proposait, lorsque deux couleurs n'allaient pas ensemble, plutôt que de l'ôter, c'est d'en rajouter une troisième, et donc dans cette espèce de connouvert qui va vers une connaissance et une curiosité, une générosité de plus en plus ample et grande, la peinture ne cesse de s'enrichir sous son propre pli. Elle est coulée, elle est mate, elle est satinée, elle est acrylique, elle est laque, elle est sablée, elle est découpée, elle est projetée, elle est tirée, elle est vaporisée, hein, c'est la peinture en bombe. Bref, à chaque fois, ces guirlandes, ces articulations nous proposent en fait une espèce de vocabulaire jamais fermé, toujours ouvert, et à la fois, hein, comme propre à l'art baroque, dans la diaphanité et dans l'ellipse permanente du retournement sur soi-même et sur sa question première. Le miroir vient en fait, le pourquoi à un moment donné d'un support est toujours, d'un changement de support, parce qu'évidemment ça décale le travail qui est à l'origine sur fond coloré et sur toile, dans un tout autre espace. Ce qui le motive en termes d'explication historique, hein, pour le planter de façon historique, c'est que donc ces premiers tableaux, qui sont ceux que j'ai décrits sur miroir, mais qui sont placés sur une simple toile apprêtée de couleurs, permet en effet de revenir sur ce dépôt qui est, tout le monde l'a bien compris, spontané. Hein. Il ne peut pas y avoir de reprise. Une fois que la peinture à l'huile est versée, coulée en pleine pâte, on ne peut pas la gratter. Donc en fait, c'était de revenir avec la même couleur de fond de la peinture pour faire une sorte de, dans la technique du repentir, de venir reciseler, presque sculpter la peinture, et donc de lui faire quitter son monde organique vers un monde minéral, c'est-à-dire quelque chose où on vient redonner du dessin. Voilà. Et donc, en fait, le repentir est ici un intrus, est ici le ciseau, l'amputation. Hein, j'essaye d'employer des termes, d'ailleurs, qui sont en rapport avec un vocabulaire ou un des sujets de Sébastien. Donc, évidemment, à un moment donné, je me suis posé la question de... mais le miroir, ça serait intéressant, mais justement, il nous manque, pour le comprendre, l'élément médium, c'est qu'à l'origine, en fait, je souhaite travailler sur miroir pour mettre en suspension cette articulation de couleurs, prendre le reflet et donc, en quelque sorte, donner encore plus de dimension baroque, de diaphanité à l'œuvre. Mais ce qui surtout le motivait à l'origine, c'était que je souhaitais passer, et je suis passé depuis ta visite à l'atelier, je suis passé sur, non pas de la peinture, mais des vernis, qui naturellement permettent d'aller jusqu'à quasiment de la résine opaque, jusqu'à des vernis qui amputent les capacités de reflet du miroir en floutant éventuellement l'image. Donc on se retrouve vers des diaphanités, des éléments plus ou moins opaques. Et à ce moment-là, en effet, le miroir était intéressant par ce jeu de ce qu'il amène en termes de reflets et ce que la peinture empêche en termes de reflets. Le problème du format est fondamental dans ce type de travail, au sens que lorsque l'on est sur un format, donc je répète, comme on a ici, c'est-à-dire à peu près 40, format raisin, 50-60, hein, pour faire, enfin d'ailleurs c'est 50-65, enfin, si on est dans ces formats-là et qu'on a une articulation d'une quinzaine de couleurs, le rapport plein vide, si j'ose dire, si cher à l'architecture, autant plein que vide, fait que, en quelque sorte, la forme picturale est dominante par rapport au reflet. C'est donc le reflet, ce qui se reflète, qui est l'intrus. Si je prends ce même élément que je mets sur un grand miroir, à ce moment-là, le miroir a pour fonction, non pas de supporter la peinture, mais de prendre sa fonction de miroir et de prendre la plus ample partie de réalité qui est au-devant de lui. À ce moment-là, la peinture devient comme un élément presque de bijouterie, d'ornementation, et c'est à ce moment-là, c'est la peinture, la guirlande, qui devient l'intrus. Et en effet, le travail, et c'est aujourd'hui ce que je travaille sur ces deux formats. Qu'est-ce qui est l'intrus ? Le reflet, ou ce qui accompagne le reflet et qui ramène le miroir à l'état de support ?